Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un phénomène souvent oublié, la maltraitance infantile. Selon le sondage de l'association Enfants Bleus réalisé en 2017, 2 Français sur 10 avouent déjà avoir vécu des événements qui pourraient être assimilés à de la maltraitance. Entre tabou et oubli, ce sujet revient depuis quelques temps au premier plan avec la crise du coronavirus. Mais en quoi une enfance difficile influe-t-elle le parcours de vie d'adulte? Nous répondrons aujourd'hui à cette problématique avec l'appui de Emmeline Beaujard-Welter, diplômée de psychologie clinique à l'Université Paris 5. Nous commencerons par étudier le phénomène de maltraitance. Ensuite, nous étudierons la prise en charge de ces enfants. Et enfin, nous verrons l'entrée de ces enfants traumatisés dans le monde adulte.
Qu'est-ce que la maltraitance? Certains diront qu'elle s'exerce seulement physiquement à travers des gestes ou des coups. D'autres diront qu'une baffe ce n'est rien et que la maltraitance commence lorsque ces coups sont portés de manière fréquente. Parfois, on la qualifie de psychologique lorsque certains mots peuvent faire aussi mal que les coups. La maltraitance, selon l'ONU, c'est tous les mauvais traitements physiques et ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitements négligents ou d'exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l'enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le contexte d'une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Et justement, identifier les cas de maltraitance est souvent difficile lorsque les victimes sont très jeunes, car elles n'ont parfois pas conscience de la gravité de leur situation. La manière dont un enfant va réagir face à une situation peut ne pas être évident à comprendre pour un adulte.
Les maladies, les traumas se présentent différemment aussi chez l'enfant que chez l'adulte. Par exemple, s'il y a des éléments dépressifs chez un enfant, ça ne va pas l'accabler, ça va pas, au contraire, ça va l'agiter. Donc, comme ça ne se présente pas de la même manière, c'est difficile parfois pour les adultes de comprendre ce qui se passe chez les enfants. Parce que le cerveau n'est pas du tout au même point, donc il n'exprime pas du tout les symptômes de la même manière.
D'après le rapport gouvernemental datant de 2019, un enfant meurt en moyenne tous les 5 jours des maltraitances infligées par sa famille. Pour aider les enfants, la justice doit intervenir. Mais toutes les situations ne sont pas les mêmes et donc parfois les enfants restent avec leurs bourreaux. Des situations qui peuvent être difficiles à vivre aussi d'un point de vue extérieur. Car ces situations révèlent un sentiment d'impuissance de la part des personnes censées aider les enfants.
Il y a un enfant que je suis dans le cadre d'un inceste paternel qui n'arrive pas à être reconnu par la justice et donc l'enfant continue d'être envoyé chez son père. Donc ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer puisqu'on est en impuissance à protéger l'enfant.
La maltraitance psychologique est tout autant difficile à vivre que la violence physique. Mais elle est beaucoup plus difficile à identifier car lorsqu'il n'y a pas de témoignage de la part de la victime, elle est invisible. Cependant, la violence psychologique s'accompagne dans la majorité des cas de violence physique. On pense souvent que la prise en charge des enfants est tout de suite ce qui va leur arriver de mieux. Mais finalement, cette prise en charge des enfants dans les foyers est-elle une porte de sortie vers le bonheur ou une entrée vers l'angoisse?
Il arrive qu'on passe une séance avec un enfant de négociation, je vais dire, hein, ou d'apprivoisement, parfois, en effet, afin qu'il puisse justement aller tranquillement vers s'ouvrir pour discuter, faire les activités qui sont proposées, etc., puisqu'on a besoin que l'enfant soit volontaire, hein, ici.
En France, 2% des mineurs français sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On note une grande évolution du nombre d'enfants placés par l'ASE de 2003 à 2009. On passe de 240 000 à 271 000 enfants placés, selon l'article Les enfants placés de Le Monde. La vie en foyer est difficile émotionnellement parlant pour les enfants et le personnel d'éducation. Le but du personnel d'éducation est normalement de donner aux enfants le maximum de bases pour qu'ils puissent traverser la vie de la façon la plus normale possible, malgré leur passé. Parfois, l'approche avec les enfants est assez fragile, comme nous l'explique Emmeline Brojard.
Il arrive qu'on passe une séance avec un enfant de négociation, je vais dire, hein, ou d'apprivoisement, parfois, en effet, afin qu'il puisse justement aller tranquillement vers s'ouvrir pour discuter, faire les activités qui sont proposées, etc. Puisqu'on a besoin que l'enfant soit volontaire, hein, ici.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les parents sont souvent présents dans la vie des enfants placés. Cela s'explique à travers des photos, des conversations ou même des souvenirs. Mais la condition des enfants placés en foyer est souvent dénoncée et critiquée par les anciens enfants placés. Par exemple, Lies Loufoque, un ancien placé, témoigne souvent des conditions de vie des enfants dans les familles d'accueil ou foyers collectifs. Enfant, il a été placé dans 4 familles différentes. Dans l'une de ces familles, il fut maltraité. Insultes ou encore douche glacée, il a fallu 2 ans au service d'aide sociale à l'enfance pour s'en rendre compte.
Mais les ex-enfants dénoncent le plus souvent la vie en foyer, un endroit où règne selon eux la terreur et la violence, et où des enfants brisés se rencontrent. Il existe de nombreux témoignages sur la condition de vie en foyer. L'IS y a été bizuté. Il est par exemple fait uriner dessus le premier jour par d'autres enfants. La violence est tellement présente dans les foyers, et nous retrouvons souvent par exemple des témoignages de viols. Et les personnels d'éducation seraient apparentant apparemment au cours de cette violence, mais ne feraient rien pour l'empêcher. C'est d'ailleurs ce que racontait Charlie Vincent dans plusieurs témoignages qui ont complètement bouleversé et levé le voile sur le traitement des enfants dans les foyers d'accueil. Les enfants sont le plus souvent placés en famille d'accueil car le système est plus avantageux pour l'État. Un enfant placé coûte 180 euros par jour en collectivité contre 90 euros en famille d'accueil. La façon d'approcher les enfants, d'un point de vue psychologique, est assez similaire, mais comme nous l'explique Émiline Beaujard.
Dans les prises en charge, il y a des choses qu'on va retrouver. Très souvent, quand même, on va devoir travailler un petit peu la gestion des émotions chez les enfants. Parce que souvent, quand ils ont eu un problème, ils ont du mal à réguler leurs émotions, dans un sens ou dans un autre. Donc, on va devoir travailler la gestion des émotions. Très souvent aussi, on va devoir travailler les habiletés sociales.
Une fois l'enfance terminée, ces anciens enfants détruits devront franchir une nouvelle étape, la vie adulte. D'après Lou Safra dans Evolution and Human Behavior, une enfance difficile aurait des répercussions à long terme. À la fin de l'expérience menée par cette dernière, elle conclut qu'il y aurait un lien entre des conditions d'éducation compliquées et des comportements qui privilégieraient les bénéfices à court terme. Par exemple, ces personnes vont avoir tendance à avoir leur premier enfant plus tôt ou encore à tomber plus facilement dans des problèmes de santé de type tabagisme ou surpoids. Au moment du passage à la vie adulte, on pense souvent que ces anciens enfants vont garder de nombreux liens avec les professionnels qui les ont aidés durant leur enfance, mais ce n'est pas forcément le cas. Du côté des éducateurs et des personnes qui se sont chargées de leur dossier, on remarque que les enfants vont garder un certain lien affectif avec eux. Mais du côté de la psychologie, comme nous l'indique Émiline Beaujard, ce n'est pas le cas, car le but cherché au fur et à mesure des séances est l'autonomie de la personne, de sorte à ce qu'à arriver à l'âge adulte, l'ex-enfant ait toutes les bases pour vivre une vie assez normale sans toutes les aides dont il avait avant besoin.
Et normalement, parce que j'ai qu'un patient dont c'est pas le cas, normalement, même pour les gens qu'on suit depuis très longtemps, on a espacé les séances. On est plus sur justement de l'entretien, de la prévention, du soutien, mais normalement, le gros du boulot, il a été fait à un moment donné. Après, parfois, il y a des gens qui ont des événements dans leur vie, qui arrivent en cours de thérapie, qui entraînent des rechutes, etc. Donc c'est vrai que parfois, encore une fois, il y a un poids de la réalité qui empêche la personne d'aller mieux. Donc voilà, il y a quelques exceptions, mais il n'y a qu'un seul de mes patients de 11 ans que je continue de suivre toutes les semaines depuis des années. Mmh. Et c'est un cas très, très particulier.
Merci beaucoup à Émiline Beaujard pour son aide et sa bienveillance. Ce podcast est terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu.
Bonjour, vous êtes avec Firdaus Mendiz, Kandja Sidibé et Yasmina Riva. Nous allons aborder le sujet des violences conjugales faites aux femmes. Nous allons répondre à la question suivante. Quelles sont les formes de violences conjugales et comment évoluent-elles? À la suite, nous avons fait un entretien avec 2 psychologues de la santé et une assistante pour pouvoir s'informer sur l'état mental des victimes de violences conjugales. Il existe différents types de violences conjugales. Il y a les violences physiques, morales, psychologiques et économiques. Mariée, paxée ou en union libre, Les victimes de violences conjugales qui signalent le fait peuvent bénéficier de nombreuses mesures de protection de la part des institutions publiques et des associations. Ces mesures peuvent même s'étendre aux enfants. L'auteur de violences conjugales peut être contraint par les autorités de quitter le domicile. La loi permet en effet l'éviction du conjoint ou concubin violent.
Nous allons vous mettre un extrait de notre entrevue avec une psychologue. C'est une psychologue de Ivry-sur-Seine. Nous avons l'autre vous le 17 mars 2021 à 14h30. Elle est spécialisée chez les enfants avec problèmes. Nous avons décidé d'avoir une interview avec elle pour connaître certains points sur les enfants, notamment s'ils sont spectateurs de violences conjugales.
Je peux vous répondre, effectivement, c'est des violences verbales. Beaucoup de violences verbales. En général, ça commence par des violences verbales. Et ça peut passer ensuite à des violences physiques. Et en général, voilà, les femmes subissent plusieurs types de violences, comme vous savez, hein, qui peuvent être verbales, physiques, et ensuite qui ont des conséquences sur leur état mental. Et ça peut être aussi une violence psychique pour elles.
Et ça peut engendrer des problèmes après envers la femme.
Pardon ?
Est-ce que ça peut engendrer
Bien sûr, ça peut tout à fait avoir des conséquences très graves pour la femme. D'une part, parce que il va y avoir une baisse d'estime de soi chez elle, par exemple. Elle peut très bien se dire pourquoi il me bat ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? En général, il y a beaucoup de femmes qui se remettent en question. Suite à ces violences en disant je le mérite, donc j'ai fait quelque chose de mal, je suis nulle, voilà, ce genre de choses qui peuvent avoir un effet tout à fait impactant pour la femme.
Est-ce que vous les poussez à porter plainte?
Alors en fait c'est très compliqué, normalement il faudrait porter plainte. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas le faire. Parce que, voilà, elles sont dans une situation, c'est leur mari, c'est le père de leurs enfants, et en fait, elles ont juste peur que si elles portent plainte, donc le mari en question se retrouve en prison, donc elles se retrouvent seules avec leurs enfants, donc elles sont souvent dans une situation un peu précaire, que ce soit financièrement aussi, hein, ou par exemple, parfois on a aussi beaucoup affaire à des personnes issues d'immigration, donc qui viennent d'autres pays qui ne maîtrisent pas la langue, par exemple, qui n'ont pas encore de situation de travail et qui dépendent beaucoup de leur mari, par exemple. Et dans ce cas-là, c'est compliqué pour elles de porter plainte, en sachant que si jamais il arrive quelque chose à leur mari, elles se retrouvent dans une situation un peu précaire.
Et du coup, les violences psychologiques, elles sont peu connues dans les réseaux sociaux, etc.
Elles sont peu connues.
Non, pourquoi en fait les violences psychologiques elles sont peu connues?
Parce que déjà je pense que c'est très compliqué pour une femme de venir en parler parce qu'elles ont honte souvent de se dire ben voilà, il se passe des choses chez moi, c'est pas très reluisant. Donc heureusement, et j'imagine que c'est pour ça aussi que vous travaillez dessus, donc en ce moment on entend beaucoup parler de ces phénomènes, hein, avec tous les mouvements que vous connaissez, puisque j'imagine que vous suivez un peu l'actualité, et donc ça commence à se libérer. Mais à la base, ce sont des choses qui se passent en privé, et souvent, une femme qui se fait battre, elle pense au départ que ça va être juste temporaire, c'est peut-être juste un événement là qui se passe et que ça ne se reproduira pas. Ensuite, bon, ben voilà, avec le temps, elle se voit que elle continue à se faire agresser physiquement ou verbalement, et elle se retrouve un peu coincée dans un schéma de honte. Et donc elle n'ose pas en parler, elle fuit un peu ses proches, parce que voilà, les gens qui commencent à s'inquiéter parce qu'ils voient que peut-être elle a des marques ou des traces. Et en fait, elle n'ose pas en parler. Donc ça a été très compliqué de libérer la voix de la femme sur ces sujets-là. Et c'est peut-être aussi pour ça que finalement, les effets psychologiques ont été peu parlés. Mais j'imagine qu'en ce moment, ça devient de plus en plus courant.
Surtout sur les violences. Question ?
Quels sont les types de violences ? Non, je n'ai pas dit. Et comment fonctionne la prise de contact avec les peu de personnes que vous avez rencontrées?
Comment se prend la prise de contact? Ben, en général, ce sont surtout des personnes qui vont d'abord voir des associations. Parce que c'est vrai qu'appeler un psychologue, ça peut être un petit peu intimidant, parce qu'on ne sait pas très bien comment parler à cette personne, qu'est-ce qu'elle va pouvoir nous dire, etc. Donc en général, les personnes se tournent d'abord vers les associations qui existent dans les différentes villes. Je crois d'ailleurs qu'à Évry, il y en a, hein, je ne sais pas si vous avez contacté. Et en général, c'est sur ces associations-là qui, après, leur conseillent de voir quelqu'un. Et c'est comme ça souvent qu'on nous adresse les patients.
Non, bah c'est tout. Bah. Vous nous avez appris beaucoup de choses.
Moi, je vais pas écouter, je vais pas l'expérience.